Convainc-nous de répondre à ton appel et d'être dans ta volonté, pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous continuons nos enseignements sur Dieu et mon travail. Et quelques rappels de nos notions d'il y a quelques semaines. Premièrement, rappelez-vous, Dieu a travaillé. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est vrai, Dieu a travaillé. Hein. Dieu a travaillé en Genèse 1, il a créé le ciel et la terre. Rappelez-vous, on a vu avec Yannick l'action créatrice et que Dieu a pris du plaisir dans le travail. Dieu a travaillé et il a vu que c'était bon et voire très bon. Ensuite, on a vu avec Basile que Dieu donne des travaux différents qui reflètent l'image du Créateur en nous. Il nous donne des talents propres à chacun pour les utiliser dans nos travaux et là où il nous demande d'être. Et ensuite, on a vu dernièrement que le travail est un mandat culturel. En Genèse 1, Dieu travaille, il crée le ciel et la terre, la faune, la flore, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et en Genèse 2, il donne ce mandat à Adam de prendre soin de la création. C'est vraiment une responsabilité qu'il donne à l'homme et à la femme de travailler. Et donc tout ça arrive avant la chute en Genèse 3. Donc le travail est saint et pur et pour la gloire de Dieu. Amen. Mais souvent, il faut le dire que dans notre quotidien, nous avons du mal à voir ce plaisir dans le travail. Nous avons du mal à voir cette joie dans le travail lorsque le manager ou lorsque les collègues parle sur nous. Et en ce matin, on continue le chapitre 4 de notre livre de Timothy Keller. Pour ceux qui ont le livre, c'est en page 81. Sinon, il y a les notes à l'arrière. Et aujourd'hui, nous allons parler du travail comme un service. Le travail, un service. Et le verset qui nous accompagne pour l'enseignement aujourd'hui se trouve en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17. Pour ceux qui étaient là, il y a plusieurs mois, nous avons eu une série sur 1 Corinthiens qui était différente. Donc, on connaît le contexte de Corinthe, cette église qui était en maturité, mais où il y avait encore des choses à améliorer et des péchés cachés. Et donc, Paul s'adresse à l'église de Corinthe en leur disant seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Généralement, lorsqu'on parle de l'appel de Dieu dans la Bible, c'est toujours l'appel à suivre Jésus, l'appel à la repentance, à tourner, à changer de voie, et l'appel à faire confiance à la foi en Jésus-Christ et son œuvre. Et cet appel, il est universel. Dieu appelle chaque personne à le suivre. Mais dans ce verset, Paul utilise le mot « appel » pour un terme spécifique. Ce n'est pas l'appel à suivre Jésus, bien que tout le monde est appelé, mais c'est l'appel à le servir. Premièrement, on a « selon la part que le Seigneur lui a faite ». Donc nous avons tous une part que Dieu nous donne. Et selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, tout comme les pasteurs, les ouvriers, nous sommes tous appelés à servir par les dons que Dieu nous donne dans nos ministères. En Éphésiens 4, on nous parle des bergers, des pasteurs, des envoyés, des prophètes. Tout chrétien est appelé à servir son prochain avec les aptitudes et les talents que Dieu lui donne dans son travail. Lorsqu'aujourd'hui on parle en 2025 au Québec du travail, quel est le premier mot qui vous vient en tête? Le travail, c'est... Est-ce que je peux avoir quelques réponses? C'est... Je n'ai pas entendu. De l'argent, ok. Très bien, autre chose. Enfin, très bien, oui, ça s'entend. Autre chose, c'est comment? La joie, le travail, c'est la joie. Bon, on a un pasteur. Autre idée, ceux qui travaillent du lundi au vendredi. Comment ? Divertissant, la liberté, responsabilité. Voilà un peu 2 ans que je suis là. Vous me connaissez, je suis français, je suis né à Paris, mais je suis aussi hongkongais par mes parents. En France, quand on parle de travail, et Clément va nous le dire, c'est trop. 35 heures, c'est trop. Merci Sylvie. C'est la galère, le travail. On veut travailler moins. Métro, boulot, dodo, on en a marre. Donc on a cette réputation, les Français, à se battre contre les employeurs, contre le travail. Mais lorsque je parle de travail à ma famille, à mon entourage, les Hongkongais, le travail, c'est un moyen de réussir, un moyen d'être quelqu'un, un moyen de prospérer, de prendre soin de sa famille. Et donc aujourd'hui, on voit que le travail a une définition qui a été entachée par la chute. Et en ce matin, je vous propose 4 points sur le travail, un service. Et le premier point, c'est que le travail est un appel à chacun de servir. Comme on le voit avec le verset de Paul. Et Anthony Tiselton, un théologien anglican, nous dit, concernant ce verset, que ce concept paulinien de l'appel et du service se distingue très nettement de celui de la pensée séculière moderne. Pour travailler, il faut étudier. Et lorsqu'on étudie, il est très rare d'entendre un parent ou un professeur dire « travaille fort à l'école pour que tu rates ta vie, pour que tu n'aies pas un bon travail, pour que tu dépendes des gens pour vivre. » Non, le travail est une manière qu'on éduque nos enfants à dire « travaille bien à l'école, travaille fort à l'école, fais bien tes devoirs, obéis, tu auras un bon travail, tu auras de l'argent, tu pourras acheter ce que tu veux. » N'est-ce pas? Et ça, c'est notre culture. Notre culture où on nous enseigne que notre culture postmoderne, individualiste, nous éduque et nous encourage à travailler pour l'autonomie, pour se réaliser soi-même et à la recherche des intérêts personnels. Et parfois, quand on est chrétien, on a besoin de déconstruire des choses qu'on nous a apprises lorsqu'on est parent, lorsque nos parents nous enseignent ou lorsque notre société nous enseigne. Et lorsqu'on voit dans la Bible le commencement de l'Église en Actes 2, il disait en Actes 2, 45 que les chrétiens se rassemblaient, et ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Je ne vous dis pas de tout vendre, de tout vous débarrasser, mais on voit le cœur de chaque chrétien qui était « on ne veut pas gagner plus ». Mais on veut que chacun, chaque membre de l'Église ait ce dont ils ont besoin. Et donc le travail au cœur de l'Église, c'est vraiment de pouvoir redonner à Dieu la libéralité, la générosité. Et dans le livre, Tim Keller dit que notre travail devrait être une contribution au bien de tous. Une contribution au bien de tous, en premier. Et non pas simplement comme un moyen de progresser, simplement comme de nous réaliser nous-mêmes ou d'obtenir un certain pouvoir. Lorsqu'on parle de travail, je ne sais pas quels sont vos travails et on serait vraiment intéressé. Et si vous avez la grâce d'être à la retraite, que vous nous partagez votre expérience de travail. Mais lorsqu'on parle de travail, il y a toujours 2 choses. C'est soit on vend un produit, donc on produit un produit, on le vend, ou soit on est au service de quelqu'un. Produits et services. Mais dans tous les cas, on a une personne où on est en contact. Même si vous pensez travailler seul, au bout d'un moment, vous allez voir un fournisseur, un client, et être en contact avec quelqu'un, n'est-ce pas? Et donc, dans cette lignée d'être une contribution au bien de tous, c'est aussi ce que Dieu a commandé et a ordonné à Abraham en Genèse 12. D'être une source de bénédiction pour le monde. Et donc nous sommes appelés, là où Dieu nous appelle, à servir et à bénir notre prochain. Dans le livre de Tim Keller, il exprime de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont changé de travail pour trouver la vocation de Dieu. ce que Dieu leur avait donné comme don, comme talent, et ce que Dieu les appelle à servir. On a l'exemple de Jill Lamar qui travaillait dans une banque d'investissement et qui un jour a dit « Seigneur, je veux plus te voir dans ma vie ». Et du jour au lendemain, elle a changé pour être dans une ligne éditoriale, pour aider les auteurs à produire leurs livres. Peut-être en ce matin, Dieu te parle à travers ton travail, ta vision du travail. Est-ce que ce n'est que simplement pour tes besoins ou est-ce que ce n'est simplement pour t'accomplir? Mais Dieu nous appelle premièrement à le servir, là où nous sommes, à servir nos collègues, à servir nos employeurs. Et en deuxième partie, le deuxième point que je veux développer, c'est que ce chemin, il n'est pas évident à choisir parce qu'il y a cette notion de séculier et sacré qu'on entend souvent. Est-ce que vous avez déjà entendu dans le milieu chrétien, je travaille dans un milieu séculier? Oui? Est-ce que vous savez d'où est-ce que ça vient? Cette notion de séculier et de sacré vient de l'Église médiévale, du Moyen-Âge, de l'an 500 à 1500. Et le deuxième point d'aujourd'hui, c'est que cette séparation entre séculier et sacré est à réduire. Et même moi, je dirais un peu fort, à bannir. Donc le deuxième point, parce qu'en fait, lors du Moyen-Âge, l'Église séparait le sacré, les appels à être prêtre, les appels à être moine, les appels à être des sœurs, des religieuses. Et ça, c'était le royaume de Dieu pour eux. C'était le travail sacré. Et tous les autres travaux, paysans, charcutiers, bouchers, fromagers, tout ce qu'on veut, c'était le travail séculier, un peu le royaume de Satan, là où Dieu n'a pas d'affaires. Et en fait, dans notre mentalité, des fois, on peut se dire, ben moi, je sers à l'église le dimanche, je suis investi, j'aime le Seigneur, je suis un disciple qui aime, qui sert, qui obéit, qui prend soin de mon prochain. Et du lundi au samedi, j'ai mon travail séculier pour mes besoins. Et donc, les réformateurs, entre autres Martin Luther, s'est fortement opposé à cette vision-là du séculier et sacré. Il traduit même l'appel de ce verset qu'on a lu dans Corinthiens, l'appel, il le remplace même par profession, par métier, par état. Et donc, il s'oppose à cette séparation, cette dichotomie dans nos vies de dire « j'ai une facette séculier et une facette sacrée ». Et je pense que souvent, on se dit « pour servir Dieu, je dois quitter mon travail, je dois être envoyé, je dois être pasteur, je dois servir tous les dimanches ». C'est un appel particulier, tout comme il vous appelle dans vos milieux de travail à être un témoin. Et donc cette séparation, il faut que nous la bannissons pour moi, que vraiment on ait cette vision que là où Dieu m'appelle au travail, ben je dois le servir, je dois être une bénédiction pour mon prochain. Le livre dit que nous avons chacun une vocation à être dans le monde professionnel ou le ministère ou les deux. Et il n'y a pas de séparation à faire entre lundi, samedi et le dimanche, n'est-ce pas? Et tous les métiers, sans exception, sont des masques à travers lesquels Dieu prend soin de nous. Tous les métiers, on l'a vu il y a deux semaines, qu'il n'y a pas de sous-métiers. Tout comme les pasteurs ou les missionnaires, nous ne sommes pas au-dessus des métiers professionnels. Nous avons cet appel que Dieu a fait dans notre vie, tout comme les croyants ont cet appel dans le milieu professionnel. Mais souvent, on tend à idéaliser. Là, il y a quelques jours, on avait des gens qui sont venus pour voir la mission au Québec. Il a dit, j'avais toujours pensé qu'être missionnaire était un noble appel. Et c'est pour ça que je ne l'ai jamais fait. J'ai dit, mais ce n'est peut-être pas ton appel. Tu as un appel à être un chef d'entreprise. C'était un chef d'entreprise qui avait fait des jeux de vidéo et qui avait vraiment cet appel à être une bénédiction pour ses employés. Et donc, la parole de Dieu aussi, dans 1 Corinthiens, nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous sommes tous appelés à servir Dieu et dans chaque petit détail de notre vie, à le glorifier. Lorsque, au travail, je suis peut-être informaticien, mais je travaille pour Dieu avant tout. Je sers Dieu avant tout. Et Dieu a mis le patron, l'employeur, que je suis en bénédiction et que je sers. Ou peut-être que je suis mécanicien et je change une roue et que je peux faire un travail bâclé. Mais je veux vraiment faire pour Dieu l'excellence. Acte 1:8 nous dit aussi que quand on recevra cette puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous appelle à le servir et nous envoie comme témoins dans nos travails. Après l'Église médiévale en Suisse, pendant la Réforme, Calvin, qu'on connaît, Jean Calvin, en 1500, prêchait chaque matin à Genève. J'ai eu la grâce de voir la cathédrale où il prêchait, et en fait, toutes les boutiques étaient fermées. Et tout le monde se rendait à l'église pour écouter la prédication quotidienne de Calvin. Et donc, la parole de Dieu vraiment transformait les cœurs, et les employés, les employeurs allaient au travail avec cette vision de servir Dieu et de le glorifier. Aujourd'hui, on voit encore dans la culture du travail à Genève, que ce soit par l'excellence du chocolat, que ce soit par le fromage, toutes les banques, l'horlogerie, le luxe, cette culture de l'excellence du travail a été donnée par la grâce de Dieu et sa parole. Et comme nous le savons, nous vivons dans un monde parfois où les éléments de la culture peuvent entrer dans notre façon de penser et de vivre. Et donc le troisième point de ce matin, c'est que Jésus et l'Évangile changent notre paradigme. Tout ce qu'on a pu nous... Paradigme, c'est une façon de penser. C'est, par exemple, moi, j'ai grandi avec mes parents qui m'inculquaient que le travail, c'était bien. Jusqu'à sacrifier sa vie comme mon père, que je ne voyais pas du tout de la semaine parce qu'il travaillait 60 heures par semaine. Mais dans la culture asiatique, c'est la norme de travailler autant. Et donc, certaines fois, on a des choses à déconstruire dans notre vie lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on rencontre l'Évangile. Et c'est ce que dit Tim Keller, que nous avons ainsi tendance à chercher uniquement des emplois bien rémunérés, qui nous assure une bonne place dans la société et même à clairement les idolâtrer, comme travailler 70 heures ou 80 heures en oubliant la famille ou autre. Nous pensons sans cesse que le travail est un moyen de faire nos preuves, de nous affirmer, et cela nous place sous une pression continuelle. J'aime bien quand j'accompagnais des jeunes qui avaient le désir de servir Dieu, je leur posais tout le temps une question. Tu as 18 ans, tu as 19 ans, et je leur posais toujours cette question. Si l'argent n'était pas un critère, quel travail ferais-tu? Si l'argent n'était pas un critère, quelle est ta passion ou quelle est la vocation que Dieu t'appelle? Et donc, souvent, notre paradigme, c'est de dire... Le travail, c'est l'argent, donc je vais aller là où je serai le mieux rémunéré, et c'est très bien. Mais en tant que chrétien, nous savons que c'est Dieu notre paradigme, c'est Dieu notre critère, et que le travail est un moyen de le servir. Tim Keller dit que par un travail, nous recherchons souvent la reconnaissance, l'acceptation et la sécurité. Cela devient par la suite une idole. Et en Matthieu 6, il nous est dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Quels sont nos critères lorsque nous cherchons ou lorsque nous parlons du travail? Et c'est là où Jésus, en fait, change tout notre paradigme. Qu'en fait, en Jésus, nous avons la sécurité. En Jésus, nous avons cette acceptation. En Jésus, nous avons cette reconnaissance. Il est dit dans la page 92 que l'Évangile nous délivre de cette pression, puisque en Christ, nous sommes déjà reconnus, acceptés et en sécurité. Il nous libère aussi d'une attitude condescendante vis-à-vis des emplois moins qualifiés, ainsi que du désir d'occuper un poste plus prestigieux. Tout travail devient alors un moyen d'aimer le Dieu qui nous a sauvés par grâce et par extension, un moyen d'aimer notre prochain. Et je pense que nous devons nous prêcher l'Évangile à tous les jours, que notre identité se trouve en Jésus seul et que nous avons tout en lui. Et donc ma question c'est aujourd'hui, lorsque Dieu a imaginé le travail, ça a été un plaisir, ça a été quelque chose de bon qui porte du fruit. Et en ce matin, peut-être que nous grandissons avec des paradigmes, nous continuons la vie, la routine. Et quels sont nos critères lorsque nous allons au travail? Le dernier point de ce matin, c'est un travail excellent reflète l'amour de Dieu. Donc nous avons vu cette séparation entre séculier et sacré, qu'il faut bannir, parce que nous sommes tous des témoins, nous sommes tous des disciples, appelés dans un lieu spécifique. Et vous le savez, au Québec, la statistique de Mission Québec, c'est qu'il y a une chance au quotidien sur 165 de rencontrer un chrétien. Une chance sur 165 de rencontrer un chrétien au travail ou dans la vie de tous les jours. Et donc, dans la page 97, William Dell dit « Si les chrétiens qui travaillent dans le domaine professionnel, je le remplacerai, ne peuvent pas trouver de sens spirituel à leur activité professionnelle, ils sont condamnés à vivre une sorte de double vie. Ils ne font pas le lien entre ce qu'ils vivent le dimanche matin et ce qu'ils font le reste de la semaine. » Et donc, lorsqu'on voit notre quotidien, on peut se dire, Seigneur, tu m'as placé dans ce travail, même s'il est difficile, même si je ne trouve pas de sens, je veux voir qu'est-ce que tu as pour moi dans ce champ. Pourquoi tu m'as appelé ici? Est-ce que c'est pour mes propres critères, un bon salaire, le bien-être de ma famille? Ou est-ce qu'il y a un sens beaucoup plus profond qui est ton royaume? Et si je voyais comme toi, Père, tu vois mes collègues. Si, Père, je voyais comme toi, tu voyais mon patron. Je pense qu'on vivrait le travail vraiment avec plaisir, en allant avec la puissance de Dieu, en disant, Seigneur, je vais dans mon lieu de travail pour être une bénédiction. Lorsque je travaillais à Paris en tant qu'homme d'affaires, la société s'appelait Service Parfait. Donc, dès que je la présentais, les patrons rigolaient. Ils disaient, mais service parfait, on sait qu'on ne va pas te payer parce que tu n'as pas un service parfait, Philippe. Et je leur disais, je sais que vous aspirez au service parfait. Et pour moi qui suis chrétien, le service parfait se trouve en Jésus. Laissez-moi vous servir comme Jésus est venu nous servir sur cette terre. Et donc, un jour, j'étais avec un client qui... tout content de notre service depuis un an, sa société grandissait par notre travail, notre accompagnement. Et le jour que j'aime le plus, c'est d'aller prendre le chèque. En tant que patron, c'est toujours le moment où on ne sait pas si le client paye. Mais là, il a dit, viens, je vais te payer. Et il avait préparé tout cela. Et donc, je le vois à moitié heureux. Je le vois un peu triste. Un grand patron, il est seul, il a sa famille. Mais quand on est restaurateur, on passe plus de temps au travail dans son restaurant qu'à la maison. Et donc, je prends le chèque et je lui dis « Ok, à la semaine prochaine » et je pars. Mais je sentais que Dieu me disait « Philippe, tu n'as pas fini ta part » alors que j'avais un autre rendez-vous. Et donc, je sens que le Saint-Esprit me dit « Retourne et demande-lui vraiment comment il va. » Et je retourne le voir et je lui dis « Au fait, comment va ta femme? Comment va ta fille ?» Et il me dit, c'est fou que tu me demandes ça parce que l'avocat vient cet après-midi pour qu'on commence les démarches du divorce. Et donc là, j'étais pris par les tripes de compassion, de dire, waouh, ce chef d'entreprise, il a, selon ce monde, tout réussi, mais il vit une tristesse, une blessure dans son couple. Et donc, je commence à juste parler avec lui. Tu sais, nous, les hommes, on va tout sacrifier pour nos familles, mais souvent, nos femmes, nos enfants demandent simplement de la présence, seulement d'être à l'écoute. Et donc, à la fin, je lui propose, est-ce que je peux prier pour toi après une heure d'intervention, enfin de discussion avec lui? Et il me dit oui, avec plaisir, il était bouddhiste. Et donc, je prie et je lui dis, je continuerai à prier pour toi avec mon associé. La semaine d'après, j'avais un autre client à côté, je passe par sa devanture et qu'est-ce que je vois? Le patron avec sa femme et sa fille en train de prendre le petit déjeuner ensemble et à rire et à vraiment voir cet amour dans un foyer. J'appelle mon associé, je lui dis, Dieu est bon, il répond à nos prières. Il y a actuellement Kassin qui est avec sa femme et sa fille ensemble. Ce patron n'est pas venu au Seigneur, mais par la réponse que j'ai faite à Dieu en disant « Je suis disponible pour être une bénédiction pour ce patron », mais Seigneur, je veux continuer à vivre cette joie de voir des vies transformées par le témoignage que je peux avoir en tant que chef d'entreprise. Et donc aujourd'hui, il a eu d'autres enfants et vraiment son couple est beaucoup plus solide. Et donc ma question aujourd'hui, c'est comment nous nous engageons dans la mission de Dieu au travail? J'aime beaucoup l'exemple d'une église à Paris que chaque lundi, chaque dimanche après le culte, ils ont cette habitude de prier pour l'assemblée. Pas parce qu'ils envoient des missionnaires dans d'autres pays, mais parce qu'ils envoient les chrétiens dans le lieu de travail. Et c'est ça, que chaque matin, nous sommes envoyés dans le monde, dans nos emplois respectifs, pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Et si nous travaillons avec excellence pour la gloire de Dieu, le monde va nous écouter, va voir la différence dans un monde où le monde du travail peut être très, très mesquin, très dur. Et donc, comment s'est exprimé aussi l'amour de Dieu dans nos vies? Ben, comme Dieu, le Père, a envoyé son Fils, aujourd'hui, c'est le Fils qui nous envoie dans le monde. Jésus nous dit que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et nous sommes donc encouragés à accepter consciemment notre travail comme une vocation que Dieu nous adresse et à le lui offrir. Il n'y a plus cette dichotomie entre le monde professionnel séculier et le monde sacré. Non, nous sommes tous des disciples, nous sommes tous des témoins envoyés là où Dieu nous appelle, là où Dieu a prévu. Pour conclure, le chapitre 4 nous suggère vraiment une vision du travail comme un service vivant pour Dieu avant tout. Comme un service vivant pour Dieu avant tout. On travaille pour Dieu, on sert Dieu dans le travail qu'il nous a confié. Et ensuite, nous sommes une bénédiction pour les hommes et les femmes qui nous entourent. Ainsi, collègues, responsables et employeurs sont les récipients de notre service dévoué, de notre amour abondant et de notre pardon inconditionnel que nous puisons en Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Et pour les jeunes, les critères que nous avons de sélection d'un travail ne font plus en fonction des attraits de ce monde, mais d'un cœur sensible à la mission de Dieu, de servir notre prochain, d'annoncer la bonne nouvelle et d'être une bénédiction pour notre entourage professionnel. Amen. Et donc aujourd'hui, c'était vraiment notre conclusion que, avant tout, le travail est un service pour Dieu et un service pour les hommes et les femmes que Dieu nous appelle à bénir. Et donc, notre vision du travail doit se calquer à ce que Dieu nous dit dans sa parole, d'être une bénédiction, de prendre du plaisir et d'être vraiment une image de sa gloire. Et donc, c'est vraiment notre prière aussi en tant qu'Église, que là où Dieu nous envoie, qu'on est peut-être le seul chrétien sur 165, que le monde puisse voir que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ton exemple, Jésus-Christ, qui s'est incarné pour nous montrer le chemin de service, le chemin de consécration, le chemin de dépendance entière à toi. Seigneur, tu vois aussi qu'il a été trahi, qu'il a été blessé, qu'il a été rejeté. Et Seigneur, c'est aussi peut-être des saisons de vie qu'on peut vivre au travail, des blessures, des trahisons, des médisances, des déceptions. Seigneur, je prie que tu puisses continuer ton œuvre en nous, à nous transformer à ton image, et que au travail où tu nous appelles, nous puissions être une différence en toi, que nous puissions briller parce que tu vis en nous par ton esprit, Seigneur. Et oui, Père, je prie que tu puisses nous aider ensemble à voir ce mouvement de disciples en mission dans le lieu de travail et que nous puissions ensemble nous réjouir de ton œuvre là où tu nous appelles. Donc, Seigneur, fortifie-nous, rends-nous en bénédiction pour notre prochain. Et Seigneur, que ta gloire soit manifeste et que ton nom soit connu de tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. On a, je ne sais pas s'il y a